Salut, c'est Erwan. Je me permets ce petit message avant votre podcast pour vous parler du festival Silence on Joue, qui aura lieu le 25 mai prochain à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. De 10h à 22h, on vous prépare une journée qu'on espère passionnante, avec des discussions, des débats au cœur même de la Cité des Sciences, et une soirée mémorable dans un grand amphithéâtre. La billetterie est ouverte, le lien est dans la description des derniers épisodes, et vous trouverez aussi un lien vers la programmation. C'est 20€ pour la journée et la soirée, et si vous voulez juste passer nous voir en journée, il suffit d'une entrée classique pour la cité, c'est 13€ tarif plein avec éventuellement des réductions. C'est la première fois qu'on organise un truc pareil et on espère vraiment que vous répondrez présente et présent. En tout cas, nous, on a très envie de vous croiser, de rencontrer celles et ceux qui nous écoutent chaque semaine. Rendez-vous donc le 25 mai et je vous laisse avec votre épisode de Silence on Joue, ou de la bande-annonce, ou de Gâchette Gauche, ou de Dans la boucle. Enfin bref, bonne écoute.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Silence on Joue, Erwan Cario, bonjour. Au programme, cette semaine, nous allons parler de Rime, nous allons parler d'Injustice. Je sais pas, j'ai une prononciation. Bon, Injustice 2, hein, voilà. Injustice 2, enfin bon, du Batman, du Superman, de... Bon, j'ai pas tous les cités. Et puis, on terminera sur le portage PC 7 ans plus tard de Vanquish. Et puis, Monsieur Fall, j'allais dire le com des com, mais bon, on y reviendra. Comme un léger bug là-dessus. Et puis, enfin, voilà, vous connaissez le reste du programme. Et je commence en accueillant trois de mes chroniqueurs favoris. Oh, j'aime bien les émissions où on est plein comme ça. Avec Joël Métro, bonjour.
Bonjour.
Joël,
bonjour.
Mathieu Hurel de Game Cult. Bonjour, Mathieu.
Bonjour.
Et Patrick Hélio, bonjour Patrick.
Bonjour Erwan.
De Gamecult aussi un peu en fait finalement. Hein voilà.
Actuellement.
Et puis No Life, et puis voilà. Et puis voilà, et on commence avec toi Joël. Tiens. Avec
ouais, moi j'adore en fait ce tumulte. Non mais cette configuration, en tout cas le tumulte qui a déclenché le Robert. Quoi.
Donc, c'était bien.
Moi c'est génial quand même, c'est génial. Alors, faut-il savoir, donc le Robert donc, a... présenter ses nouveaux mots de l'année. Donc on a influenceur, on a également...
Il y a eu le Larousse aussi qui a présenté ses nouveaux mots à peu près en même temps.
Voilà. Mais c'est Robert qui pose plus problème. Alors Robert, qu'est-ce que
c'est-il ?
Cher Robert, qu'est-ce que c'est-il ? Donc un gamer, ce n'est pas forcément donc gamer ou gameuse, parce que c'est, effectivement c'est plus pratique. Donc donc l'orthographe française EUR, maintenant c'est EUR et gameuse, voilà, qu'on peut accorder facilement. Mais le problème, c'est que c'est pas seulement un amateur de jeux vidéo en ligne, puisque voilà, Robert, selon
c'est
Robert,
c'est ça la définition. Oui.
C'est, voilà. Donc c'est un peu embêtant, effectivement. Le gamer joue aussi hors ligne, hors connexion. Mais le plus problématique, c'est la présence de ce S à jeux vidéo. Alors moi, je voudrais savoir, voilà, parce que pour le Robert, donc jeux vidéo prend, enfin S à vidéo.
Ça, c'est terrible.
Alors moi, je voudrais savoir ce que vous en pensez, parce que effectivement. Ah. Non, mais je pense que le débat est très important.
De 1990, voilà, on a le droit de tout faire. Mais
elle va passer une vie à lutter contre
ce S. C'est ça qui est terrible.
J'ai l'impression d'avoir passé 20 ans à l'enlever dès que je le voyais, à lutter contre ce S.
Moi, j'ai beaucoup de... effectivement, de
surtout qu'il n'y a aucune raison de le... l'accorder, en fait, vu que ce n'est pas un adjectif. C'est juste un raccourci.
Mais finalement, en fait, ce n'est pas grave. Il peut s'accorder... Non, enfin, je sais pas. Moi, je suis plutôt.
Moi, de toute façon, ça nous ramène un tout petit peu à l'insignifiance de certains de nos combats. Voilà, c'est.
Ou la Game Boy.
Voilà, c'est ça.
En même temps, si on nous retire ces petits combats un petit peu insignifiants, un petit peu anecdotiques, qu'est-ce qui nous reste ?
C'est ça l'idée.
Ouais,
bah, voilà, c'est ça aussi. C'est se prendre la gueule sur des petits détails comme ça. Bon, après, voilà, il n'y a personne.
On en est où? Parce que ça a été remonté. Donc, on leur a dit attention.
Ils maintiennent pour
jeux vidéo. Ils maintiennent.
Gamer, gameuse, ça, j'ai aucun problème avec.
Oui, non.
Il y a un footballeur.
On l'a tous.
Bien sûr. Non, le truc, c'est ils ont dit que pour le côté joueur en ligne et tout ça, ils sont revenus là-dessus parce que ça. La définition est finalement plus ouverte, ouverte que ça.
Des DVD vidéo, des cassettes vidéo. Des cassettes vidéo. C'est ça, ça revient à ça.
Des cassettes audio, ça vient de mettre un NES à vidéo, des cassettes audio, mettre un NES à audio. Non, mais voilà, c'est tout un monde à reconstruire.
En même temps, Robert explique qu'ils écrivent comme ça et qu'on a le droit d'écrire sans S et on a le droit d'écrire avec un S.
On fait comme on veut.
Ça va devenir générationnel. Après, il y aura les anciens qui vont partir le S et puis.
Non, mais c'est troublant. C'est bien, ce sera peut-être des histoires, des combats qu'on racontera nos arrière-petits-enfants.
De toute façon, moi, ça m'a toujours rappelé.
Tu sais, je ne l'écrivais pas avec un W, franchement.
Et autant pour moi, c'est AUTMPS, enfin. Alors, voilà.
Non, mais j'adore, c'est chouette, quoi. Autre news, mais alors, cette fois-ci, alors, ça vient toujours, je ne sais pas pourquoi, je vais avoir une fascination pour l'Est, quoi, pour les pays de l'Est. Et là, pour une ancienne république soviétique. Enfin, une ancienne république soviétique, dont la capitale est Tachkent. Allez, c'est qui
l'Ouzbékistan.
Tu le savais?
Oui.
Ah, ben d'accord, ok.
Bah oui, ouais. Samarkand et puis Tachkent. Enfin, voilà, c'est
l'Ouzbékistan. Okay. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, l'Ouzbékistan? Quoi? Ouais, bravo. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, l'Ouzbékistan? Eh bien, ils ont interdit une liste de 30... Enfin, donc, ils ont interdit une liste de 30 jeux, une trentaine de jeux. Alors, on ne sait pas pourquoi. Mais c'est des jeux... Non, mais voilà, c'est des jeux qui sont... Voilà, ils ont interdit parce qu'ils sont susceptibles de propager la violence, la pornographie, de menacer la sécurité et du pays et la stabilité et la stabilité politique. Effectivement... Non, mais attends. Ouais. Duty, Black Ops, c'est quand même super dangereux. Ah, voilà, oui. Je veux dire, faut pas regarder. Silent Hill aussi, Mortal Kombat, Doom, quoi. Non, mais attends, donc voilà, 34 jeux et aussi. Ah non, mais alors, le jeu, effectivement, ça peut poser problème, quoi. Les Sims.
Il est interdit,
on explique ça. Voilà.
L'idéologie
occidentale.
Voilà. Donc, c'est fascinant, quoi. C'est-à-dire que je trouve ça toujours extraordinaire, quoi.
Et en plus, ils ont coupé Internet ou pas?
Alors, je sais pas s'ils ont coupé Internet encore. En tout cas, sur Internet.
Techniquement, c'est compliqué, quand même.
Quoi, voilà. Mais donc, je sais pas, je suis fascinant qu'il y ait encore des. Enfin, je suis fasciné par le fait qu'il y ait encore des. Comme ça, des.
Des interdictions.
Des pays qui interdisent, quoi. Qui interdisent des titres de jeux. Des vidéos.
Surtout que voilà, il y en a que 35, c'est ça
34.
Alors qu'en fait, à partir du moment où ils interdisent les Sims, il y en a environ 12 qu'ils doivent interdire pour être cohérents. À partir du moment où ils interdisent Call of Duty, ils doivent interdire environ 60 000 jeux
Il y a The Singles. Parce que The Singles, c'était un peu la version au-dessus des Sims, un peu plus haute.
Ou le Playboy d'Ubisoft, rappelez-vous.
le Playboy d'Ubisoft.
Oui.
Ah, c'est un jeu Playboy.
Quelques années, ça.
Un jeu Playboy en 2007 ou un truc comme ça chez Ubisoft.
Il n'est pas dans la liste, en tout cas.
Il
peut encore y jouer. Allez-y.
Il va falloir envoyer un petit mail à monsieur le président de l'Ouzbékistan. Il y a encore un petit effort, s'il vous plaît. Mathieu, la Switch.
Moi je vais parler rapidement de la Switch. En fait, on a eu des infos ce matin, au moment où on enregistre, sur le online. Alors, on savait déjà que la période de gratuité ne serait pas éternelle sur Switch pour profiter du jeu en ligne et de différents services. Là, ils ont décidé de repousser un petit peu le passage au payant, puisque ce sera début 2018. Au départ, ça devait être...
histoire de passer tranquillement la fin d'année. Noël, tout
voilà,
ça.
Je pense que c'est aussi pour... pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons techniques, parce que Nintendo et l'online, ça a toujours été un petit peu compliqué, et ça l'est toujours.
Des stress tests.
Je pense que là, ils vont faire du stress test sur la fin d'année. Ils ont quand même pas mal de gros jeux qui arrivent, et donc on sait enfin combien ça va coûter, cette merveille, puisque ça sera 20 euros par an. pour pouvoir profiter des jeux en ligne, pour pouvoir utiliser le chat vocal qui va être un modèle de complexité puisqu'il faudra passer par une espèce de double prise jack pour brancher à la fois ton casque et ton smartphone qui fera l'interface puisque tu auras une appli dédiée pour le chat vocal.
C'est-à-dire qu'il faut donc il faut avoir un casque
un casque micro classique.
N'importe quel classique.
Voilà.
OK. Qui
sera connecté en fait à une espèce de hub qui va se connecter à la console, j'imagine en USB.
Ouais. C'est vrai que le plan est assez fou.
Et ensuite, voilà, tu fais paf deux petites entrées.
Le côté smartphone. Jeu mobile de la Switch. Ouais. Ouais, elle en prend un coup quand même.
Ah, mais là, c'est. Plug and play. Ouais.
C'est ça. Triple plug and play.
Plug and play.
Ouais. Et avec des machines à batterie, donc ils vont le smartphone vaut aussi ses batteries, la Switch on sait qu'elle est assez ouf.
Ça va être compliqué. Ah, et donc 20 balles pour l'abonnement annuel ou il y a des tarifs intermédiaires au mois ou au trimestre qui doit être 4 et 8 euros, quelque chose comme ça. Il y aura aussi une sélection de jeux. Au départ, ils visaient un jeu par mois auquel tu pourrais jouer que pendant ce mois-là. Donc pas comme le PlayStation Plus où tu gardes chaque jeu et tu as une sélection de jeux chaque mois et tu les gardes. Là, ce sera plutôt un catalogue général qui va s'étoffer au fil des mois et dans lequel auquel tu pourras jouer. Alors évidemment, ce sera des classiques NES, Super NES. Pour l'instant, c'est les seuls les exemples qui filent, c'est genre Mario 3, Dr Mario, des trucs comme ça.
Et on garderait du coup.
Et là, par contre, tu gardes l'accès à ces jeux tant que t'es abonné. Donc c'est un peu mieux que ce qu'ils avaient prévu à la base. Mais
si tu t'abonnes sur le 12e mois, est-ce que tu as accès aux 12 jeux
Normalement, oui. Ouais. Après, je sais pas s'ils vont faire varier du coup la taille du catalogue au fil des mois, s'ils vont en retirer tous les mois ou des choses comme ça. Mais au moins, tu auras plusieurs jeux disponible au lieu d'un seul par mois. Et si tu le finis en deux jours,
ça va faire bizarre quand même, là, de tout d'un coup, de cette forme de gratuité pour les.
Sur console Nintendo, c'était encore les seuls à faire ça sur Wii U.
Je sais pas s'ils vont. Les joueurs vont.
Surtout, ils ont intérêt d'assurer au niveau technique. Et c'est là le gros stress, quoi, parce qu'ils sont vraiment pas doués.
Arms et compagnie, c'est intérêt à tourner.
Déjà sur Wii U, ça tournait quand même pas mal. Je trouvais qu'ils avaient fait des gros efforts par rapport à la Wii. L'interface était un peu nul, mais c'était quand même jouable. Tu pouvais jouer à Splatoon sans trop de problèmes. Là, j'espère que le service du coup sera de meilleure qualité quand même, si tu dois le payer.
Sachant que ce sera en plus des applications différentes des autres applications liées à la Switch, comme
il y a le contrôle parental, c'est un truc à part. Qui sert juste à contrôle parenté et à surveiller ton temps de jeu aussi. Oui. C'était le seul moyen jusqu'à récemment de savoir combien de temps tu avais joué à un jeu précisément, parce que le compteur de la Switch n'était pas aussi efficace que celui de la Wii U de la 3DS.
Eh ben,
voilà.
Patrick.
Oui, on va continuer. Je continue sur ma lancée de la semaine dernière. Je vous avais parlé d'adaptation ciné ou télé de grands hits bien connus, Castlevania et puis It Came From The Desert de CinemaWare, dont je vous avais parlé des premières images du trailer. Et bon, voilà, c'était un moment difficile. On attend de voir le film. Non, intéressant, cette semaine, moi, j'ai vu passer un tweet de Lucas Pope, qui est le développeur de Papers, Please, qui a posté des photos d'un court-métrage, d'une adaptation de son jeu en court-métrage. Qui m'a fait bien envie. En fait, il y a 4 photos, je crois qu'il a posté. Ouais. Moi, je l'ai retweeté sur mon compte. Je trouve ça assez emballant. Alors, Papers, Please, on résume en quelques mots. Là, on en avait parlé. Je crois que le jeu est de 2013, donc ça commence à dater un petit peu. C'est un jeu qui nous avait beaucoup marqué à l'époque parce qu'il avait un parti pris vraiment intéressant, un jeu en pixel art avec un look rétro et qui avait surtout un fond très intéressant puisqu'on jouait à un douanier qui devait donner un droit de passage à des réfugiés qui passaient par ce bureau de douane. Donc, c'est un sujet qui est encore plus d'actualité aujourd'hui, qui est assez frappant d'ailleurs de le relancer, de se rendre compte qu'il annonçait plein de choses qu'on connaît aujourd'hui avec des thématiques qui sont encore plus poignantes aujourd'hui. Donc c'est intéressant de voir que, voilà, en tout cas, donc Lucas Pope, le développeur du jeu original, valide ce court-métrage. Et c'est intéressant de parler d'un court-métrage parce que je pense que ça aurait été difficile de transposer cette expérience de jeu quand même assez fulgurante, qui était pas très très longue, qui reposait sur un concept assez simple en soi. Sur la télé, je pense, assez difficile d'en tirer un long métrage. Je pense que c'était assez...
Oui, ils sont bien en train d'adapter Tetris. Je pense que bon. En tout cas, qu'il y a des matières.
Je trouve encourageant que ce soit réduit en un court métrage en termes de durée, de format. Je pense que ça s'y prête vraiment bien. Encore une fois, je vous dis, allez voir les images. C'est encourageant parce qu'on retrouve vraiment l'ambiance de bureaucratie.
Ouais, avec les affiches, avec
c'est sombre. Ça a l'air d'être très soigné ce qu'on en voit. Ouais. On va suivre ça de près. J'espère qu'on va avoir des choses là-dessus assez rapidement. En tout cas, voilà, c'est une bonne idée. Puis ça peut relancer un petit peu le jeu. Puis on attend toujours son prochain jeu à Lucas Pop. Je crois qu'il bosse dessus depuis. Oui, c'était un jeu à l'ambiance Macintosh de 84 avec les visuels d'époque.
Un jeu 1 bit.
Et donc, je crois qu'il bosse dessus depuis 5 ans. Donc on attend d'avoir des nouvelles. Ça va être intéressant à suivre. Et puis, oui, une news qu'on n'a pas faite. Je me suis rendu compte qu'on n'avait pas parlé. Un petit détail qui est tombé
il y a quelques jours. Un petit détail de calendrier, on va dire.
Quelques jours. Et ça m'étonne de ta part, toi, qui porte ce jeu au nu. Et bien évidemment, c'est le report de Red Dead Redemption au printemps 2018. Ouais. C'est quelques mots comme ça.
Oui, les deux.
Évidemment. Ça paraît comme ça, quelques mots, mais ça... C'est énorme, c'est un changement de paradigme total sur la fin d'année parce qu'on sait que c'était un des jeux les plus attendus du moment. Donc il sortira l'année prochaine, c'est-à-dire qu'il va pas arriver sur cette fin d'année. On sait que dans l'industrie, c'est un jeu très attendu. Un jeu Rockstar, c'est toujours un événement qui fait beaucoup de bruit, qui fait pas mal aussi stresser les autres éditeurs parce que lorsqu'en général, un Rockstar arrive, quand on a une date qui sort, qui est annoncée, les autres éditeurs ont tendance à le laisser passer et voir ce qui va la semaine après.
C'est un d'honneur en général.
Oui, voilà, c'est ça.
On laisse passer.
On ne sort pas. Alors, deux semaines avant, non. Et un mois après, non plus.
Dans l'industrie, il y a vraiment un phénomène Rockstar lorsqu'un de ces gros jeux sort.
On a bien vu que GTA V reste encore aujourd'hui parmi les jeux les plus vendus.
Et Red Dead, bon, on sait, a priori, ça a l'air de plutôt bien se présenter. D'ailleurs, des nouvelles images ont été publiées lors de l'annonce du report, histoire de nous faire languir encore plus. Maintenant, il y a quelques mois à attendre de plus, mais ce qu'on voit est magnifique et je pense qu'on peut vraiment s'attendre à un autre phénomène. Donc voilà, ça change un petit peu la façon dont on pouvait prévoir la fin d'année. Il n'y a plus ce jeu, donc ça va laisser peut-être plus de place à d'autres titres. Par contre, on peut s'attendre déjà à un début 2018 assez colossal. Il y a le Far Cry 5 qui a été confirmé sur début 2018 aussi. On commence à avoir quelques notions comme ça d'un début d'année prochaine qui s'annonce assez costaud. Et c'est très bien, parce qu'on s'écarte de la fin d'année habituelle avec tous les gros blockbusters. On sait qu'on aura le FIFA, Call of Duty, tous les grands classiques. Mais c'est bien de voir que les débuts d'année, ça s'équilibre tout ça. Et on n'est plus sur une fin d'année où tout se joue. Il y a aussi, et là, voilà, avec Red Dead Redemption 2, ça va vraiment être important. Ça va être un beau début d'année 2018, en tout cas, qui s'annonce.
Ouais, ça fait déjà quelques années maintenant que ils ont un peu étalé sur le début d'année. Enfin, nous, je sais que chez Gamekult, le mois de mars, en général, c'est
vrai que
horrible.
C'est devenu un deuxième.
Cette année,
février-mars.
Ouais. Puis là, il y a eu la Switch cette année. C'est vrai qu'on a eu aussi une année un petit peu spéciale. Mais c'est très bien. C'est très, très
2017,
bien,
donc, c'est un peu foufou quand même. Enfin, le début d'année est un peu complètement barré. Enfin,
ça sort dans tous les sens. Mais tu vas te remettre, parce que Redemption.
Ouais, mais alors bizarrement, moi ça m'a pas d'une part en fait. À partir du moment où c'est Rockstar qui le dit, et Rockstar a raison, hein, donc c'est. S'ils repoussent, c'est qu'il fallait repousser.
Et je pense qu'ils ont des raisons, voilà. Et tant mieux, on a envie de leur dire prenez votre temps. Redemption 2 qu'on attend.
Voilà, j'ai envie d'avoir Red Dead Redemption 2, mais j'ai envie d'avoir un Red Dead Redemption 2 parfait.
Si ça peut éviter d'avoir l'incident du Mexique dans Red Dead Redemption 2,
moi je veux le Mexique.
Ah ben c'est la pire partie de Red Dead Redemption.
Du premier. Non,
le premier.
Le premier. Celui où, pourquoi celui
où tu fais des allers-retours tout le temps en changeant de camp sans cesse avec la guerre civile. C'était...
Ah, moi, ça m'a pas
ça m'a presque fait lâcher.
Est-ce que c'était lié à un impératif de date ou c'est
Non, c'est juste. C'était
pas une erreur. Moi, je sais pas. Moi, ça m'a pas gêné parce que j'étais tellement dedans que.
Le gros ventre mou du jeu.
Mais... Est-ce que dans Red Dead, on pourrait aller dans le Montana, par exemple? J'aimerais bien. Je sais pas, j'aimerais bien un truc un peu crossover avec.
Ils sont capables de mettre des petits clins d'œil. Vu qu'ils sont doués pour ça.
Mais voilà. Et puis en plus, moi, ça me laisse un espoir de finir Persona 5 aussi. Hein,
oui,
voilà. C'est un peu parce que autrement, j'en ai pas. Hein, donc voilà, pourquoi pas. Le comme n'est comme. Voilà, c'est le moment de l'émission. Alors, c'est un peu gênant. Hein, c'est un peu gênant. Voilà. On va pas se cacher. C'est un peu gênant. Bon, après, on va expliquer le contexte. On enregistre le vendredi matin. Là, par un espèce de contexte aussi temporel, Silence on joue, elle n'a été mise en ligne que le mardi soir.
Un contexte temporel.
Oui, voilà, ça s'appelle un contexte. Ouais, je ne sais pas, je n'ai pas trouvé autre chose.
Paradoxe.
Et donc, au moment d'écrire ce com des com, il n'y en avait pas. Voilà, il n'y en avait pas. Ça n'arrive que très rarement. Hein, donc, mais c'est pas grave. On pourra la semaine prochaine, par exemple, faire un com.
Dis-moi consent.
Ouais, mais peut-être parce qu'il n'y avait pas de jeu. Pourtant, on a parlé de late shift, mais oui, peut-être que les gens n'ont pas eu le temps. Parce qu'il fallait écouter Silence on joue, télécharger late shift, parce que personne n'avait téléchargé late shift avant qu'on en parle. Ouais, et donc, après, il faut jouer à late shift et après commenter, tu vois. Donc, en fait, c'est peut-être ce truc-là où.
On va faire de commentaires dans les heures qui viennent. On va voir ça.
Dans les jours. Enfin, on pourra faire un com des com de il y a deux semaines et de cette émission-là. Voilà. Hein ? On va faire ça ? On va faire ça. Bref, on va commencer cette émission en parlant d'un jeu qui a fait beaucoup parler de lui, qui a suscité énormément d'espoir. Trop, peut-être. En tout cas, c'est ce qu'avait expliqué son créateur, Raúl Rubio. Voilà, il avait dit un moment, mais on reparlera un peu de cette histoire. En tout cas, le jeu s'appelle Rime. Rime, nous étions un petit peu en train de nous moquer, hein, mais gentiment, hein, de cette musique bucolique qui rappelle les grands espaces, la poésie et les belles couleurs et voilà.
Et l'enfance perdue, la nostalgie.
C'est ça. Et donc voilà, Rime, on incarne un enfant qui se réveille amnésique sur une plage dans un univers mystérieux. Coloré, avec qui va découvrir un animal fétiche et aborder les mystères de cette île. Voilà. Mais à quel jeu on joue ? À quel jeu on joue ? À quel jeu on joue ? C'est, je pense que c'est le premier mystère de Rime, c'est à quel jeu on joue ? Est-ce qu'on n'a pas déjà... Mais on a déjà joué à ce jeu, mais il est sorti avant. Enfin, c'est un remake. Non, c'est pas un remake.
C'est pas du tout un remake. C'est un projet original d'un studio qui avait déjà fait Deadlight. Donc c'est Tequila Works, qui est un studio espagnol. Et Deadlight, déjà, avait ce défaut de repiocher à droite, à gauche, notamment chez Prince of Persia. Ils avaient tout un côté Walking Dead aussi, parce que c'était la grosse période de Walking Dead au niveau des comics.
Efficace, mais pas foufou.
Il manquait vraiment de personnalité. Et c'est...
Pour le coup, je ne m'en rappelle pas du tout.
Jeu de survie zombie en vue de côté, mais 3D, tu sais, avec des effets de profondeur.
Bien fichu, je m'en souviens.
Un poil rigide. Sur les bords, mais dans l'ensemble, c'était un jeu honnête, quoi. Et Rime, c'est la même chose, mais retranscrit sur jeu d'aventure, action-aventure à troisième personne, avec un petit peu de plateforme côté Ueda, on va dire, Ueda et Prince of Persia. Il y a pas mal de trucs qui rappellent le Prince of Persia 2008, celui qui était en cel-shading. Il y a beaucoup de choses qui rappellent énormément Journey. Mais alors, jusque dans la musique qui fait du faux Austin Wintory, dans les figures que tu vas croiser, un grand personnage avec une cape rouge qui va servir de guide.
Le personnage mystérieux sur lequel tu ne sais pas grand-chose.
Il y a des séquences aussi, pas de glisse, mais de grands couloirs avec des raies de lumière et vraiment la lumière au bout vers laquelle tu vas te diriger. Il y a plein d'emprunts à différents jeux qui sont sortis ces dernières années et qui ont bien marché. Et c'est un peu le problème avec Rime, parce que c'est pas un mauvais jeu en général. Il y a plein de trucs. Je pense que si t'as pas joué aux références que tu croises tout au long du jeu, tu peux vraiment apprécier le jeu. Et je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont pas forcément fait, je sais pas, Monument Valley, The Witness, Journey. Il y a un peu moins de chance parce qu'il y a eu quand même un gros battage médiatique autour. Mais c'est tout, mais en un peu moins bien. C'est vraiment, il essaye de faire plein de trucs en même temps. Et il manque une idée directrice. Il y a une idée forte dans le jeu qui est plus du côté narratif, on va dire. Parce que c'est un jeu très métaphorique, on va dire. Quand tu arrives au bout, il y a quand même un truc qui est intéressant twist. À voir. Il y a un petit twist, mais...
Qui ne sort pas non plus, forcément.
Oui, oui, ça ne sort pas des carcans classiques de « on va faire un jeu très coloré et, qui fait beaucoup appel à l'imaginaire pour en fait parler de quelque chose de un drame, voilà, oui. Un drame très réel qui est ancré dans l'histoire. Et il se trouve que le jeu était très attendu parce qu'il faisait penser à beaucoup d'autres jeux.
Oui.
Mais on se disait qu'il va avoir sa propre personnalité. Surtout, il va avoir quelque chose de plus à apporter. C'est pas tellement le cas, en fait. C'est ça qui m'a un peu déçu. Le début est très prometteur. Le jeu est vraiment joli. Il arrive à mettre en place très rapidement un truc très, très intriguant. Il y a tout le jeu sur la voix qui ressemble beaucoup à ce que fait Journey, mais il le fait un peu de façon différente, notamment sur les énigmes.
Il y a très beau le level design, je trouve, notamment sur les premières heures. Je trouve qu'il y a vraiment un beau travail sur la façon dont les niveaux sont charpentés. On peut les explorer dans différents sens. On a une vraie géographie, je trouve, des endroits.
C'est à la fois dirigé, parce que tu as quand même beaucoup d'indices et de choses qui font que tu vas progresser et naviguer facilement dans le jeu. T'as quand même un peu de latitude dans la façon dont tu vas l'explorer.
D'ailleurs, on se demande même, en y jouant, je me demandais, alors évidemment, on pense à toutes ces références de jeux qu'on connaît, je me suis même demandé si le jeu ne l'avait pas assimilé, parce que finalement, il nous donne quasiment pas d'indications sur ce qu'on doit faire. Mm-hmm. Ce qu'on fait, on le fait d'instinct un petit peu, parce qu'on comprend que telle colonne de lumière est un indicateur sur... C'est pas du tout expliqué. C'est-à-dire que le joueur qui n'aurait aucune référence du tout n'aurait pas forcément le. On n'est pas guidé. Et quelque part, moi, ce qui m'a guidé, moi, je parle de mon expérience, c'est de me dire ah oui, c'est comme tel jeu. Et je me suis même demandé si finalement les game designers n'avaient pas assimilé ce fait
pas trop
que.
Là-dessus.
Je me suis posé la question. Ouais.
Je pense que ça peut marcher parce que c'est très visuel quand même. Il y a beaucoup d'indices qui sont à la fois assez clairs. Enfin.
Quand tu vois une lumière bleue qui va jusqu'au ciel, généralement, t'as pas besoin de...
Moi, j'ai pensé aux Zelda aussi, dans les Zelda aussi. Il y a des choses visuelles, il y a des façons de mettre en scène parfois certains points de vue, certains...
Prendre de la hauteur pour essayer de voir tout le reste, c'est assez... moi, ça m'a plus fait penser à Witness, en fait, vraiment dans l'ensemble. Notamment la toute première partie du jeu.
Sur la géographie.
Elle est énormément Witness avec les jeux de perspective sur les
énigmes. Là, pour le coup, les jeux de perspective où il faut ouvrir les portes en recomposant comme ça,
ça, c'était très Witness dans l'esprit. Mais le truc,
mais
c'est
un peu un Witness pour les nuls, quand même.
Pour moi, c'est un jeu pour les enfants. C'est vraiment jeune public, c'est un jeu à faire avec un gamin pour l'aider sur les passages où il va peut-être galérer. Mais je vois plus ça comme un truc pour enfants. Tu vois, ça appelle tellement. Alors, il y a une deuxième lecture derrière, c'est comme Le Petit Prince, si tu veux. Mm. Ça fonctionne chez les enfants, mais il y a un message derrière plus pour les adultes, même si de base, c'est écrit, je pense, pour les gamins. Et le jeu est typiquement fait.
C'est vrai que c'est simple. Enfin, c'est pas, y a pas y a pas de truc bloquant.
Effectivement, pour les enfants, pourquoi pas? Parce que moi j'aime bien cette univers. Moi, je citerais plutôt Miyazaki. Je trouve qu'il y a un petit côté Miyazaki avec cette nature, avec le renard, avec les méduses, les mouettes, les marcassins aussi. Super,
les marcassins
super
sont
jolis, petits marcassins et tout. Non, moi, ce côté nature. Moi, je vois plutôt du côté de Miyazaki. Effectivement, moi, je me suis un peu profondément, un peu ennuyé. Quoi, je trouve ça super joli, super beau, mais je le mettrais plutôt. Bon, c'est un peu, comment dire, c'est pas méprisant à l'égard des gamins, mais je le mettrais plutôt entre les mains d'un enfant, effectivement accompagné d'un adulte pour apprendre, pour qu'il le guide.
C'est vraiment premier contact avec ce type de jeu. Il n'y a pas du tout de combat à proprement parler, tu vois, c'est vraiment pensé pour...
Ce qui peut être un avantage, hein, c'est
vrai. Il n'y a pas de game over, il n'y a pas
de... Ça peut être, pas avoir justement le côté contraignant des combats, etc., qui peut... J'ai trouvé qu'il avait une forme d'épure, ce jeu, finalement. C'est vrai qu'il se nourrit de pas mal de choses. Malgré tout, je trouve qu'il a une épure dans son visuel, dans sa narration, qui est complètement... Il n'y a pas un mot, je crois, de tout le jeu. Hein. Il est complètement... il se joue quasiment d'une traite. Enfin, moi, j'ai dû le faire en deux fois. Et
Moi, j'ai pris plaisir. Je trouvais qu'il était agréable à jouer. Je trouve qu'il y avait des bonnes mécaniques. C'est simple, comme on l'a dit, mais il fait bien le travail. Je trouve qu'il est réussi dans son genre. Après, c'est voilà, il faut passer outre ce côté ultra référentiel dans tous les sens à tous ces jeux, tous ces grands jeux qu'il cite. Moi, j'ai trouvé qu'il fonctionnait. Je trouvais que la recette fonctionnait, qu'il y avait quelque chose de il y a un élan comme ça. Il est pas très long. Il doit se faire en 4 heures, peut-être 4-5 ouais, heures, quelque chose comme ça. On se perd pas trop, on a quelques énigmes comme ça qui sont... Il reste agréable. Moi, je trouve qu'il est, y a un côté frais, finalement, malgré, paradoxalement, cet agrégat de différentes références qu'on reconnaît, on peut s'amuser à reconnaître des choses. Il y a une fraîcheur visuelle, il y a une fraîcheur dans le personnage. Il y a quand même, malgré tout, une patte visuelle. Je trouve qu'il réussit quelque chose en termes de visuel et de...
Moi, j'arrêtais pas de me poser la question... Parce qu'effectivement, donc, le jeu donne beaucoup d'indices visuels aux joueurs pour qu'ils se repèrent. Est-ce que c'est du guano qu'il y a sur les parois où il faut s'agripper? Ouais. Voilà, c'est la question que je vais poser. Est-ce que c'est du guano?
Je pense qu'il y en a une partie, c'est du guano, l'autre, c'est l'usure.
D'accord,
en
voilà.
Ils partent du principe que tous les playtesters sont passés par cet endroit-là.
C'est ça.
Ça a montré les...
D'accord,
les
voilà. C'est...
Mais ça, c'est la technique. Maintenant, tu peux... C'est soit ça, soit les corniches qui brillent.
Donc,
je préfère, à la limite, avoir juste le guano sur le bord. Il y avait un autre jeu qui le faisait très très bien, enfin qui vous savez vraiment l'air de merde de mouette, c'était The Order.
The Order,
t'avais des passages où tu pouvais grimper, parce que c'était un jeu ultra cinématographique, et tous les passages où t'étais en corniche où tu pouvais passer, c'était vraiment le guano tout le long. Quoi.
Ah ouais. Ça mettait des gants. Il y a un côté Kenzo aussi, à un bout d'un... Non, mais il y a aussi... Non, mais c'est vrai, oui, à un moment, on est devant des coquelicots et tout, alors tu penses forcément à la pub Kenzo, le côté propre, tu t'attends à voir quoi. Non, mais c'est vrai, mais c'est un peu gênant quand même tout ça, mais bon... Mais...
Moi, je trouve que le perso était très maniable, je trouve qu'il se manie bien. Par contre, j'ai trouvé qu'il y avait des petits accros parfois dans l'animation, il y a des petits moments un peu raides. Moi, j'ai joué sur une PS4 classique et ça ramait pas mal, j'ai eu pas mal de saccades, alors je sais pas si c'est ma console
Mais même sur PC, même sur PS4 Pro...
J'ai l'impression qu'il y a un manque de polish au niveau des animes.
C'est les transitions d'animation et puis même d'une manière générale, la fluidité de l'image, on prend un petit coup de temps en temps. Moi, c'est surtout la console qui était... Elle partait dans l'espace, quoi. C'est le décollage de la fusée Ariane.
Oui, alors que ça n'a pas l'air d'être le jeu gourmand par excellence.
C'est juste des soucis d'optimisation, quoi. Mais ça n'empêche pas de...
Parce que quand la PlayStation part dans l'espace, elle part dans l'espace.
Ah bah ça, oui.
Il fait 30 degrés en ce moment.
Il y a certains jeux, ça peut être compliqué. Mais en tout cas, ouais, c'est pas un jeu que je déconseillerais. Moi, je me souviens très bien du test de Polygon, qui pourtant n'est pas un site qui d'habitude est très fort pour les tests, où le testeur disait j'ai pas adoré Rime, j'ai pas détesté Rime, j'ai joué à Rime et à un moment ça s'est arrêté. Voilà, c'était. Alors c'est dur, hein.
c'est très dur,
mais j'ai vraiment, j'en garde des souvenirs parce que en plus je l'ai refait pour des GK Live et des choses comme ça. Mais c'est pas un jeu dont je me souviendrai dans 5 ans avec des étoiles dans les yeux.
Comme Deadlight.
C'est vraiment le même studio qui prend plein de trucs, mais qui a pas encore trouvé sa recette à lui.
Mais ouais, moi j'ai trouvé ça. Après, moi je suis pas allé jusqu'au bout, mais j'ai vraiment trouvé ça un petit peu gênant. Alors que je suis généralement très réceptif. Par exemple, j'étais plutôt emballé par un jeu comme Abzu, par exemple, qui avait un peu ce même genre de problème par rapport à... Mais je sais pas, dans Abzu, qui était une sorte de journée sous la mer, sans l'aspect connecté, j'avais un peu compris une sorte de propos. Voilà, le propos du mec qui était directeur artistique sur Journée, qui fait son jeu, voilà. Et il avait un truc sur Abzu. Après, le jeu était imparfait, le machin.
Je trouve que Abzu n'avait pas un propos.
Il y avait une direction, il y avait un choix, il y avait un univers, il y avait une idée directrice, et même de level design. Exactement,
mais il y avait
une idée directrice. Et là, j'étais là, alors que normalement, c'est le type de jeu où je suis assez réceptif, et j'étais là, mais. C'est un peu comme quand tu vas voir un film un peu tire-larme où il y a une sorte d'injonction à pleurer. Il y a une injonction à la contemplation, une injonction à la poésie, une injonction à... Alors que t'es là, ouais, mais normalement, on n'a pas à me demander de trouver ça beau, quoi. Bah, je trouve ça beau, je suis dedans, je trouve ça poétique, je trouve ça intéressant. Et là,
Reprends donc du violon.
Mais, c'est ça. On a l'impression que le jeu te dit, tu trouves pas ça assez beau.
Il s'acharne à créer ça.
Regarde mon personnage mystérieux dans sa cape rouge. Oh là là.
Le petit renard qui te fait des signes et tout ça.
Le petit renard, c'était gênant.
C'est un fennec.
Un fennec, oui, avec ses grandes oreilles. Mais il y a un côté un peu gênant, un peu.
La musique, les personnages.
Mais bon, après, voilà, c'est pas désagréable. Heureusement que c'est pas désagréable à jouer. Bah,
dans un tout autre style et qui a été fait, enfin, co-développé par le même studio, récemment, il y a The Sexy Brutal qui est sorti et qui est plus, lui, c'est une sorte de jeu de Cluedo croisé avec Majora's Mask ou Le Jour de la Marmotte pour ceux qui. Qui ne voit pas la référence à Majora, où tu peux revenir en arrière et empêcher des meurtres, en fait. Et ce jeu-là, en fait, est beaucoup plus réussi, je trouve, que Rime.
Donc, c'est quoi ?
The Sexy Brutal.
Ah, d'accord.
Voilà.
Ah,
bah, mais il est passé complètement inaperçu. Ça a été,
pour le coup, oui.
Ça a été développé à la base par un autre studio et ils ont filé un coup de main là-dessus, donc ça leur a filé de l'exposition. Mais j'y avais joué à la Paris Games Week et j'avais été déjà agréablement surpris. Et chez nous, c'est Gauthier qui a fait... qui a fait le test et c'était vraiment cool.
Peut-être que les retours sur Rime vont aussi les motiver à chercher des pistes.
Mais moi, je pense qu'il faut juste qu'ils trouvent un propos. Quoi. Enfin, c'est
faut avoir quelque chose à dire.
Voilà, faut se dire à un moment qu'est-ce que je veux dire avec mon jeu, quoi.
Paradoxalement, je trouve que c'est peut-être le truc qui réussit le mieux. Parce que le reste est à l'équerre, mais le propos qu'il y a derrière, au moins...
Sur la fin.
Tu sens qu'il voulait...
Le propos d'un jeu, c'est sur la durée, non ? Non, je sais pas.
Ça peut donner envie de le refaire, à la limite, tu vois, pour voir les différents trucs auxquels ça fait référence. Mais oui, le problème, c'est que le gameplay ne va pas avec le propos, souvent.
Oui.
Il manque des trucs, c'est un peu trop disconnecté. Déconnecté, pardon.
Rime sur PC et console. C'est,
PS4, Xbox One.
PS4,
et il y a une version One, Switch qui arrive cet été aussi.
Bon, bah voilà, sur partout. Hein. Rime sur partout. Bon, alors maintenant, on va aborder les choses sérieuses. Ah, mais non. Avant d'aborder les choses sérieuses, nous allons accueillir Monsieur Fall de TrickTrack.net et sa chronique Jeux de société. Bonjour, Monsieur Fall.
Bonjour, mon cher Erwan. Cette semaine, je vous propose de jouer les décorateurs d'intérieur grâce à Dream Home, un jeu signé Clement Skalicki. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 7 ans pour des parties qui vont durer une trentaine de minutes. C'est édité par Rebel et en français par Novalis. Dream Home ne vous ment pas. Quand vous regardez la boîte, immédiatement avec ses graphismes fins et subtils, vous savez que c'est un jeu casual. D'autant plus qu'il est à partir de 7 ans. Mais vous allez voir, les adultes peuvent en tirer un petit bénéfice intellectuel. Vous allez voir, c'est extrêmement simple et amusant. En gros, dans Dream Home, vous allez gérer votre petit pavillon de banlieue coquet. Vous allez tenter de l'aménager le mieux possible, le plus joliment possible pour marquer un maximum de points. Chaque joueur va avoir devant lui un petit plateau représentant sa coquette petite demeure de banlieue et vous allez à votre tour choisir parmi les cartes proposées au centre de la table et au vu de tout le monde, les deux meilleures cartes qui vont vous permettre de transformer votre intérieur en magnifique petite demeure dans laquelle vous vous sentez bien. Vous n'allez pas choisir les cartes n'importe comment puisque les cartes vont vous proposer parfois des actions spéciales pour transgresser les règles. Certaines cartes vont marquer plus de points que d'autres. Peut-être que vous allez avoir besoin de salon à ce moment-là, peut-être de la salle de bain, peut-être que vous allez avoir besoin de la salle de jeu ou la bibliothèque. Là, elle fait très envie car toutes les cartes sont illustrées de manière différente, elles sont rigolotes, elles ont plein d'anecdotes partout. Dans le garage, vous pouvez avoir une salle de sport, une salle de bricolage, vous pouvez entasser vos vélos, vous avez une cave à vin, enfin bref. En fonction du joueur que vous êtes, vous pouvez décider de jouer soit juste purement esthétique, en essayant de vous représenter vous, ou en essayant d'optimiser vos points, car dans ce jeu, vous allez devoir faire de réflexion, puisqu'il y a à la fin, bon, forcément, une petite table pour marquer des points, et en fonction de la taille de votre salon, de l'endroit où sont placées vos salles de bain, vos chambres, enfin bref, de l'aménagement intérieur, vous allez marquer plus ou moins de points, enfin, bref, c'est simple, subtil, efficace, c'est amusant, c'est pas cher, ça coûte moins de 30 euros, c'est magnifiquement décoré, c'est intuitif, c'est amusant, agréable, rapide, c'est Dream Home, un jeu de Clement Skalicki, c'est pour 2 à 4 joueurs à partir de 7 ans, pour des parties qui vont durer une trentaine de minutes, c'est chez Rebel, chez Novalis, ça vient d'arriver, moi mon cher Erwan, je vous dis à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, Monsieur Fall de TrickTrack.net et TrickTrack.tv. Bon, les choses sérieuses, c'est quand même du gros DC qui tâche, hein, on va appeler ça comme ça. Ouais. Le gros DC qui tâche, c'est Injustice 2. Earth's defense is irreversibly compromised. Begin the countdown. Yeah! We are at war with these animals. You're not welcome in Atlantis. I am Brainiac.
Injustice 2, oui, Batman, oui, Superman, oui, Aquaman, Flash, Green Lantern.
Ah, il y a du monde. Hein.
Ah là là, Supergirl, Black Canary, ouais, le Joker, oh là là là.
Swamp Thing.
Swamp Thing.
Ouais,
qui est Harley Quinn.
Oh là 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 là, mais que de monde, que de beau monde, enfin que de beau monde, que de beaux personnages. Alors après, ils sont. C'est un peu premier degré là pour le coup, mais voilà, ouais, Injustice 2, hein, qui aussi fait suite donc à Injustice Gods Among Us.
Il y a 5 ans, je crois, à peu près.
2013.
Ouais. Peut-être un peu moins, ouais, 4-5 ans.
Voilà, alors pour, en fait, c'est NetherRealm, là, ils sortent un Mortal Kombat, un Injustice, ouais, un Mortal Kombat. Donc Injustice, c'était 2013. 2015, ouais. Mortal Kombat 10, c'est et bien, 2017,
Injustice. C'est une bonne méthode, je trouve, parce qu'ils enrichissent l'un et l'autre, comme ça, on sent qu'ils bossent les deux séries en cumulé, et ils apportent, ouais, des choses à l'une et à l'autre.
Enfin, oui, et puis il y a cette cohérence scénaristique.
Ah, mais c'est... Oui, bien sûr, c'est
ce talent pour la...
Non, mais ils ont quand même... Non, mais attends, mais sans rigoler, ils ont quand même fait un progrès, hein, sur le scénario, les cinématiques de ce deuxième Injustice. Il y a vraiment un progrès, parce que le premier, c'était
trop bien.
C'était une catastrophe. C'était
trop bien. Et puis, voilà, avec Erwan, on avait même connu, nous, le DC Comics versus Mortal, ouais, Kombat.
Qui était le... Ouais. Voilà, c'était
le maître étalon de la série.
Ah oui,
c'était énorme.
C'était trop bien.
On avait fait un run, je me rappelle, avec les scénaristiques, c'était énorme.
Dans Injustice, parce que le scénario d'Injustice, ouais, Gods Among Us était tellement trop bien, ouais, que Injustice 2, c'est la suite.
C'est
la suite. Donc en fait, on est un, pour ceux
qui
suivent.
Il faut avoir fait le premier pour comprendre le.
On devine ce qui s'est passé, c'est assez bien raconté.
C'est mieux raconté. Non,
mais on comprend ce qui s'est passé, en fait. Vous êtes dur.
Mais non, c'est trop bien. Attends, j'adore.
Superman a pété les plombs, c'est une réalité.
Alors voilà, on est dans. Parce que c'est la grosse spécialité du DC-verse, c'est les mondes alternatifs, les réalités alternatives.
Mais ce qui est bien, c'est trop bien, je trouve, la façon de questionner les mythes comme ça. Je trouve intéressant.
Et donc là, on est dans une réalité alternative où Superman, grosso modo, a pété les plombs.
Piégé par le Joker, emmenant
avec lui Wonder Woman, emmenant avec
Il a été piégé par le Joker, je crois, ouais, donc il a tué Lois Lane, qui était enceinte de lui. Enfin, c'est assez glauque.
C'est Batman ou Superman qui a pété les plombs?
C'est Superman.
Voilà, d'accord. Parce que Batman, lui, est en pétage de plomb permanent. Donc c'est... voilà, c'est Batman. Mais là, pour le coup, c'est lui qui,
c'est
justement...
C'est Batman de Miller, du coup.
Ouais, on est plus dans ces eaux-là. Ouais. On a un Batman assez dark, assez... En fait, je crois que c'est un comics en même temps. C'est un comics, hein, c'est tout un, voilà, tout une enveloppe scénaristique comme ça, qui réussit. Alors, tout n'est pas réussi, mais je trouve qu'ils font des choses intéressantes, justement, sur ce questionnement d'un Superman un peu méchant, un peu cinglé, avec le danger qu'il représente, parce que c'est quand même un super-héros. C'était même beaucoup loupé dans le film Batman v Superman. Là, je trouve que il y a une piste intéressante sur un Batman qui pète complètement les plombs et le danger qu'il représente. Et voilà, ça pose pas mal de questions. Et voilà, tout le scénario donc, de ce Injustice 2 développe l'après-enfermement de Superman, et avec tout ce qui peut se passer, et puis d'autres menaces qui arrivent en plus. Donc voilà, il y a beaucoup de tensions scénaristiques. Et la grande force de ce Injustice 2, c'est qu'il il y va, quoi. Il fait un vrai mode solo scénarisé, ce qu'on a trop peu dans les jeux de combat, parce qu'en général... Dans les jeux de baston, le mode solo, c'est presque un gadget.
Street Fighter 5, rappelez-vous.
C'est un mode un peu d'entraînement, vaguement, pour le multijoueur. On plie ça un peu dans la dernière semaine de développement et basta. Là, non. Il y a un vrai, on sent qu'il y a un vrai travail du studio pour créer un mode scénario qui vaut ce qu'il vaut en termes de mise en scène, etc. Mais c'est fun. Enfin, c'est fun. Il y a vraiment.
Ils sont obligés en même temps parce que c'est. Dans le monde des jeux de baston, t'as toujours les jeux de baston à système et les jeux de baston à personnage. Et celui-là, c'est clairement
On est vraiment sur des personnages. Alors justement, il y a tout un scénario, donc un système de scénario qui, avec des embranchements selon les personnages qu'on va prendre, on a toujours des teams de personnages, donc on va choisir l'un ou l'autre, etc. Mais ça marche bien. Et en fait, ce Injustice 2, pour moi, il fait penser à un énorme burger, quoi. Enfin, avec plein de sauces et plein de machins. Parce qu'il est, en fait, il est très très riche en termes de contenu. Donc il y a ce mode solo qui peut déjà prendre pas mal d'heures si on veut le refaire, etc. Et puis il y a beaucoup de modes de jeu, même en solo. Il y a des tas de petits scénarios. Et ça, on avait déjà ça dans le Mortal Kombat XL, j'aime beaucoup. Il a été remodifié, enrichi avec des personnages. Ouais, c'est un jeu auquel je relance de temps en temps parce que je trouve qu'il est pareil, il y a une richesse. Et puis il y a plein de modes de jeu. On peut faire des petites sessions comme ça, même en solo, avec des épreuves sur 4-5 personnages à battre. Et puis on a toujours des récompenses. Et là, sur Injustice 2, il joue à fond la carte comme ça, des petites campagnes scénaristiques autour de ces mondes parallèles, etc. Avec du loot, on peut pas mal récupérer d'objets, de choses. Enfin, on sent qu'il y a une, il y a énormément de contenu dans le jeu, et ça, c'est, enfin, je trouve qu'on sent qu'il y a un effort de fait à ce niveau-là. Et comme je disais, je trouve qu'il a repris pas mal de choses du dernier Mortal Kombat sur les systèmes de jeu, etc. Ben,
Mortal Kombat a toujours été très très riche en termes de mode solo. Tu avais plein de trucs annexes.
Avec la, je me rappelle, il y avait la, comment on appelait ça, la cave. On débloquait toujours des bonus complètement fous, des vidéos, des choses parfois complètement grotesques.
Il y avait un mode jeu d'échecs aussi avec la crypte.
Oui, il y a toujours. Et là, on sent que c'est pareil. On sent que le studio s'amuse à remplir le jeu de plein de choses. Alors, il faut trier, tout n'est pas toujours très bon, mais voilà, il y a énormément de contenu.
Est-ce que c'est pas un peu trop gras au bout d'un moment ?
Alors ça tâche, hein, comme un burger, enfin, c'est, il y a un côté un peu salissant parfois.
Ouais, parce que quand t'appuies sur le pain, il y a la sauce qui dégouline. Hein, bon, sur ma...
mais voilà, je crois qu'il y a une trentaine de personnages, quoi. Il y a une trentaine de personnages, la plupart sont plutôt bien modélisés. Alors, il y a quelques trucs. Le Batman, moi j'aime bien le look du Batman, mais il va pas plaire à tout le monde. C'est vrai qu'il est assez différent de ce qu'on connaît en général. Il a un look un peu
plutôt proche de... du dernier film.
Ouais, c'est ça, ouais, c'est un Batman.
Ouais, il peut poser problème. Le Superman, je suis pas fan.
Ah, moi non plus.
Je trouve fan, mais bon, Superman, ça a toujours été un problème.
Je trouve.
Superman et le jeu vidéo, c'est un problème.
Superman, alors ça va pas.
Mais si, le personnage est intéressant.
Non.
Superman est intéressant.
C'est un problème.
Mais en jeu vidéo, il a toujours du mal à passer. Là, même visuellement, je trouve qu'il est toujours un petit peu compliqué à. Mais les personnages féminins, je trouve, sont plutôt réussis visuellement. Je trouve qu'ils ont. Ils ont vraiment un cachet. Et puis, on est dans le délire. On est dans le délire de NeverRealm, le studio avec des coups dans tous les sens, des délires dans les mises à mort, dans les coups spéciaux. Moi, j'adore le Flash qui pense son personnage.
Il est en train de
faire, c'est ça. Il fait le tour, il explose un sphinx.
Contre un T-Rex.
Voilà, donc c'est complètement barré, mais voilà, c'est généreux, ça part dans tous les sens, et c'est rigolo. Enfin, moi, je sais que y a deux écoles, il y a l'école DC Comics, l'école Marvel. Moi, je suis plutôt d'obédience DC Comics de loin, je ne suis pas un spécialiste, mais... Et là, c'est un vrai bonheur, parce qu'on ressort même des personnages moins connus, les Swamp Thing, etc., qui sont des persos un peu plus secondaires.
Qui a connu un excellent reboot chez DC il y a quelques années, Swamp Thing, qui est...
Qu'il faut que je lise, d'ailleurs. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire, il y a énormément de choses à faire.
Joël,
Moi, je la trouve très, très agréable à prendre en main, et puis surtout à y jouer à deux. Enfin, c'est-à-dire, j'ai joué avec un pote, et c'est... moi, je suis nul en jeu de combat, lui aussi était nul.
Il vaut mieux être au même niveau.
Et voilà, c'est super agréable à prendre en main, ça réagit bien, les animations sont super fluides, chaque personnage a effectivement des coups très différents, et je le trouve vachement agréable. Alors bon, on est un peu aussi... Effectivement, c'est gras, ça tâche, on est dans des super punchlines, je les note, quoi. Je sais pas, c'est genre les soirées pyjama, c'est fini pour toi. Ou alors, je sais pas, Swamp qui dit à la fin, je n'ai jamais eu la main verte. Alors aussi des trucs un peu étranges où Black Canary et son copain Arrow sont en train de combattre Bane. Alors il y a des jumeaux un peu bizarres où ils sont en train de rigoler, de pouffer de rire comme des collégiennes quand ils disent il faut qu'on s'occupe de son tube à Bane, avec un gros clin d'œil son tube. C'est sympa, c'est ça. Mais moi j'aime bien, c'est vraiment bien et c'est vraiment très agréable à prendre en main, quoi.
Alors après on est sur un jeu américain, enfà on est vraiment sur les gameplay américains, donc ils sont plutôt raides, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur du Capcom, on n'est pas sur un Street Fighter, on est sur des mécaniques un peu à la Mortal Kombat. Le dernier Mortal Kombat avait ses qualités mais aussi ses défauts. C'est un gameplay un peu raide qui demande un petit moment d'adaptation dans la façon d'enclencher les prises, etc. C'est une autre logique que les jeux à la japonaise. Une fois qu'on comprend le coup, encore une fois, il y a beaucoup de prises de choses à... J'aime bien les moments de duel dans les combats où on se retrouve l'un contre l'autre et il y a des paris à prendre sur les... Il y a plein de petites choses comme ça qui animent les combats.
C'est assez généreux quand même si ça part complètement dans tous les sens. Le truc, c'est ce qui fait plaisir d'une manière générale dans les jeux NetherRealm, c'est qu'on sent que les gens qui ont fait ça se sont éclatés.
Ouais, ils aiment les personnages.
Il y a un côté comme ça, over the top... On y va, on met des trucs, et puis on s'imagine très bien dans des réunions, les réunions hebdomadaires chez NetherRealm.
On va prendre cette version du perso, et puis...
Les gars, j'ai une idée. Ah ouais, trop bien. Allez, vas-y, on fait...
On peut faire.
Non, mais ça, c'est une vraie anthologie DC Comics, c'est un jeu qui va me faire plusieurs années, que je vais laisser sur le disque dur de ma bécane, et que je vais relancer comme le Mortal Kombat, que je vais relancer comme ça quand j'ai un pote qui passe, parce que c'est des jeux faciles à prendre en main, comme tu disais, qui sont accessibles et en même temps très fun, et qui visuellement ont un cachet, je trouve.
C'est quand même 2h30 de film solo, pratiquement.
La motion capture est ultra bien foutu.
Ouais, c'est vrai, carrément. Ouais. Les expressions des visages sont.
Même bien, les textures des costumes, parce que c'est quand même casse-gueule de mettre en scène ces personnages qui sont improbables, généralement. Et là, il y a un vrai. Ouais, on sent les textures travaillées. Il y a plein de petits clins d'œil dans les décors, lors des cinématiques. C'est vraiment bien fichu.
C'est assez drôle à comparer avec le Marvel Capcom. Là, il y en a un nouveau qui va sortir.
Oui. C'est une autre.
C'est vraiment une autre école, tu sens quand même que le côté américain revient pas mal sur le Marvel Capcom, notamment dans le rendu des persos. Ils sont allés vers pour toucher le public américain. Je pense.
Plus réaliste.
C'est un peu plus réaliste, plus côté comics, mais comics nouvelle génération. Tu sais, c'est comme quand tu passes du dessin papier au dessin 3D.
Ouais.
Et vraiment une modification de la vision des héros que tu vas avoir. Mmh. Après, dans le gameplay, c'est quand même assez différent, même si, pareil, de la même façon, ils ont fait beaucoup de concessions sur la facilité du gameplay. Marvel Capcom, ça n'a jamais été... tu peux y jouer de façon très simple, avec les super coups, avec deux boutons et tout ça. Mais après, c'est vrai que je pense que la profondeur de jeu est un peu plus grande sur Marvel Capcom.
Oui, sûr,
mais la fluidité, mais t'as pas le gros délire... À l'américaine, ultra
spectaculaire. Puis là, il y a quand même un bon didacticiel qui nous rappelle bien, qui prend le temps de nous expliquer les coups, etc. Enfin, il prend le temps. Enfin, il y a un bon système de prise en main du joueur par la main. Je trouve que ce que j'ai bien aimé, moi, c'est les interactions avec le décor. On peut vraiment péter les décors quand il y a une touche qui nous permet d'utiliser l'environnement. Ce que je trouve dommage, mais ça, je crois que c'est lié aux licences, c'est qu'on n'a pas d'impact visuel sur les corps des personnages, parce que quand on voit les combats qui se livrent, ça aurait pu être bien d'avoir un Batman avec une armure déchirée ou des choses. Mais là, bon, je pense que c'est contractuel.
C'est comme les voitures de Gran Turismo.
On n'y touche pas. Et malheureusement, ça, c'est un peu dommage. Ça aurait pu être marrant d'avoir, justement, quand on a cette qualité visuelle.
Ils l'ont fait une époque. Il y a une époque où je ne sais plus quelle.
Il me semble qu'il y a eu.
C'était peut-être pas sur un DC. Mais
Les
Mortal Kombat
le font, évidemment. Mais là, bon, c'est un peu. Ça aurait pu être rigolo, mais je pense que c'est compliqué à faire.
Non, ce qui est fou dans cette générosité, bon, t'as parlé un peu, mais alors les coups spéciaux, il y en a quand même. C'est un microfilm à chaque fois pour chaque personnage.
La
mise en scène, c'est très drôle, et même tu as juste envie d'essayer tous les personnages, rien que pour voir leurs coups spéciaux. Et, petit détail que moi j'ai trouvé assez amusant, c'est que en introduction des combats, t'as un dialogue entre deux personnages spécifiques.
Entre deux.
C'est-à-dire que chaque personnage va faire une remarque liée à l'autre personnage. Et là, t'es en train de calculer dans ta tête, mais ça fait combien de combinaisons Mais c'est ce petit détail de générosité où les mecs, les équipes de NetherRealm ont créé des dialogues pour chaque paire de personnages. Franchement, c'est un truc que moi, j'avais jamais vu. Enfin, je sais pas, ça existait peut-être.
Ça existe depuis très très longtemps dans les jeux de baston, notamment sur King of Fighters, qui faisait ça à l'époque. En fait, en fonction des personnages et même parfois de la composition d'équipe que tu avais fait, parce qu'il fallait choisir plusieurs personnes, ils faisaient des remarques
J'ai pas du tout
même Street Fighter le fait sur certains trucs, par exemple quand tu avais Ryu contre Ken, pas sur tous, mais c'est un classique du jeu de baston, mais qui est porté là au maximum.
C'est doublé
pour chaque truc, c'est doublé.
C'est vrai qu'à chaque fois un petit,
avant c'était du texte, quoi.
Et là c'est vrai qu'il y a une mise en scène.
Voilà, Injustice 2.
Donc, je crois, pour les fans de l'écurie DC, je pense que c'est...
ceux qui veulent un bon jeu de combat,
solo.
Facile à prendre en main.
Solo, et pas seulement.
Bon jeu de combat. Injustice 2, je trouve que c'est pour l'instant le meilleur.
C'est valeur sûre.
valeur sûre, exactement. Bon, on va parler avant de finir cette émission, d'un jeu de 2010, parce qu'on aime bien l'actualité, mais d'un jeu de 2010 qui débarque là, maintenant, sur PC, en version PC, donc 7 ans plus tard, c'est bien sûr Vanquish. Vanquish, rappelez-vous, Platinum Game à la réelle, Shinji Mikami, pas n'importe qui, le bonhomme de Resident Evil de Capcom. Platinum Games, donc voilà, un des jeux par, qui a engendré cette réputation finalement de Platinum Games, de jeu rapide, technique, Vanquish. Et donc toi, tu as testé la dernière version, la version PC. Donc
la version PC, oui, ils ont ressorti, ils ont fait des portages. En fait, ils avaient commencé leur premier jeu PC, je crois que c'était Metal Gear Rising. Et à partir de là, en fait, là, ils ont négocié avec Sega pour pouvoir les ressortir sur Steam. Donc il y a Bayonetta qui est sorti il y a un mois ou deux, quelque chose comme ça. Le premier seulement, puisque le 2 il reste une exclu Nintendo. Et là, il y a Vanquish qui est donc un jeu de tir à la troisième personne ultra nerveux ouais. Qui était souvent comparé comme le Gears of War Killer. En tout cas, c'était l'ambition de Mikami de faire un TPS dans lequel tu feras pas, qui serait pas super lourd, où tu passerais pas ton temps à te cacher derrière des doudous de béton, ouais. Pour reprendre une expression d'un ami. Et il se trouve que là, le jeu pète encore plus parce que à l'époque, il était limité à 30 images par seconde. Et là, c'est deux fois plus rapide, au minimum.
Ah oui, là, ouais. Et en plus, c'est ce genre de jeu où le 60 FPS ouais.
Ça change ouais. Pas mal de choses. Le jeu est aussi beaucoup plus propre visuellement parce qu'il y avait sur PS3 et Xbox, en fait, ils avaient été obligés de réduire un petit peu la qualité des textures pour garder une certaine fluidité. Le jeu avait quand même des chutes de framerate et il y en a encore sur la version PC, mais alors là c'est comme si tu avais passé un coup d'éponge sur les textures et tout est propre, tu vois. Ouais. Et le jeu surtout reste très agréable à prendre en main. Alors ça demande beaucoup de pratique au début parce que c'est un jeu très exigeant, tu peux mourir très vite.
Ouais. C'était dur, enfin c'était.
C'était très très dur si tu y joues à la façon d'un TPS Gears of War. Ouais. Parce que si tu restes tout le temps derrière et que tu sors juste la tête pour tirer sur les ennemis, le jeu n'est pas pensé pour ça. Le jeu est pensé pour que tu ailles vraiment vers les ennemis à fond la gamelle, que tu fasses des petits saltos et que tu tires au ralenti en doublant tes dégâts. En fait, ça fait beaucoup plus de dégâts quand tu es en mode ralenti. Et la particularité, donc, je parlais de foncer, c'est que ton perso en fait, a des propulseurs au niveau des jambes qui lui permettent de foncer, mais genre, il glisse sur le sol avec... En marche avant.
C'était ultra dynamique, comme je me rappelle. Oui, puis il y avait ce côté Devil May Cry, enfin le côté un peu poseur de Devil May Cry, enfin de Mikami, de Platinum Games.
C'est très kitsch. Hein, ouais. Là, pour le scénario, pour le coup, c'est timbre-poste et ça n'a quasiment aucun intérêt. Il y a beaucoup de situations, enfin en tout cas des ennemis qui sont recyclés au fil de la campagne. Ça, c'est l'école un peu Capcom japonaise où tu retrouves un monstre qui au départ est un boss et après en fait il y en a deux et après c'est un ennemi normal, ce genre de choses.
Ça c'est une pattern, oui.
Ouais. C'est très très arcade dans l'esprit. Mais le système de jeu en lui-même est vraiment super bien pensé. C'est vrai qu'à l'époque il avait souffert de la durée de vie notamment parce que le jeu est assez court, mais il est fait pour être rejoué avec plein d'éléments de scoring et tout ça. Et donc ce portage PC... honnêtement, moi, je joue assez peu sur PC, à part pour les jeux indés où j'ai pas le choix de la plateforme. Mais c'était vraiment agréable de le retrouver dans des bonnes.
Il faut une bécane quand même.
Il avait reçu un accueil tchèque plutôt chaleureux, mais c'était pas bien vendu.
Du tout, non.
Alors que
non.
C'était une. Enfin, dans mon souvenir, c'était vraiment une.
Il est sorti quand en 2007 ? À mon avis, il y avait une concurrence. Il a 2008.
Il est sorti en 2010. Mais il a commencé à être développé en 2007. Et déjà, en fait, le précédent jeu de Mikami, qui était du coup God End, c'était le même problème. Qui, pour lui, était très aride visuellement, mais qui était complètement délirant et qui avait un beat'em all. Dans lequel tu jouais en 3D, mais où tu avais un champ de vision assez réduit. Finalement, tous les ennemis qui étaient dans ton dos, tu les voyais pas. Il y avait juste un petit radar pour te le dire. Et là, il y a le truc du radar et des ennemis, tout ça, mais tu as plus d'indices et surtout, tu meurs beaucoup moins vite que dans God End. En tout cas, ouais, si vous voulez revoir...
Je pense que
c'est un des derniers TPS qui a innové, si tu veux, en termes de mécanique pure. Après, il y a eu beaucoup de choses faites du côté d'Uncharted pour le côté script, le côté IA, machin, tout ça. Là, dans le style arcade, ça reste un des derniers grands TPS qui mérite d'être vu, en tout cas.
Formidable. Vanquish sur PC, sur Steam, du coup, sur...
20 balles.
20 balles,
voilà.
20 balles, c'est bien. Eh bien, c'est fini pour cette semaine avec le jeu vidéo et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi ? Joël.
Je l'ai pris, mais je suis en train de lire. Et puis en plus, ça tombe bien parce que c'est un peu dans le thème
C'est
un peu, ah. Voilà, c'est un peu dans le thème de la semaine. Ça s'appelle, c'est un bouquin qui, bah, qui est malheureusement pas encore traduit en français. Et il faut vraiment qu'il s'attraduise. Ça s'appelle okay. The Caped Crusade. Et c'est donc Batman and the Rise of Nerd Culture. Et c'est un livre mais passionnant sur. C'est un type qui a un fou de Batman et qui raconte voilà, bah, l'histoire de l'icône à travers les comics, les séries télé, les films, bah, comment il évolue au fil du temps avec son.
Son voilà, impact sur les autres.
Son impact sur les autres super-héros, ouais. Son impact. Mais c'est très bien, voilà, je trouve que c'est très bien. Comment
il
dire
parle de la série de 66.
Ah, bah, évidemment, évidemment. Parce que selon l'auteur.
Je valide.
Non, mais selon l'auteur, il y a vraiment des cycles.
Patrick Helio approuve.
Non, c'est intéressant, non, mais c'est un des personnages les plus malléables.
Il y a des cycles, Batman. Il y a des cycles. Il y a vraiment un cycle. Il y a des cycles. Un Batman optimiste, un Batman décalé. Et puis là, on est. Alors là, à mon avis, on est en train de passer dans le côté. Donc Schumacher avec son un infâme. Voilà, Batman. Batman, quoi,
Forever. Batman et Robin aussi, voilà. Je crois qu'il avait fait.
On
les
était
deux,
à la fin d'un cycle où ouais. C'était. Voilà, c'était un peu grand n'importe quoi. Nolan revient et met, voilà, remet de la noirceur dedans. Là, on commence à repartir sur le côté un peu folklorique avec Justice League oui, Justice et Batman, League, ouais. Superman. Léger, on commence à repartir dans le côté un peu n'importe quoi. Bref. voilà. Non, mais bref, c'est vachement
ça,
intéressant, c'est chouette.
C'est sur l'affiche, là. C'est pas les toutes premières séries.
Moi, je peux te regarder, tiens.
Ah, c'est, ouais, je crois que ça doit être ça. Non, je sais qu'il y a eu des premières séries télé vraiment ultra kitsch. Ouais.
Non, il y a, oui, dans les années 40, enfin, il y a même dans les années 40, il y a eu les premières séries télé. Enfin, voilà, bref, c'est passionnant.
Mathieu
Bah, moi, je lis aussi un livre qui n'est pas très, très récent, qui est une biographie de Bob Dylan, donc par François Bon, et ça s'appelle Bob Dylan, une biographie. Comme ça, c'est très facile à trouver. Là, je suis en train d'enchaîner des bios de musiciens, j'en ai une sur Frank Zappa, sur le feu aussi. Et c'est plutôt pas mal, c'est un peu surécrit par moments. On sent que le
c'est
mec
un peu qui est enthousiaste.
C'est pas enthousiaste, c'est la façon de raconter les événements qui est peut-être un peu trop romancé parfois.
D'accord. Enjolivé.
Voilà, il y a enjolivé ou même je sais pas dans la formulation. Alors ça inventé forcément parce que Bob Dylan c'est quelqu'un c'est un affabulateur incroyable et qui s'est inventé toute une vie avant de devenir un artiste super connu. Et bah là, j'en suis à la période où il commence à enregistrer Blowing in the Wind, donc, oui. Qui était une grande chanson qui finalement a connu plus de succès par un autre groupe que celui de Dylan. Et c'est plutôt pas mal. J'ai quelques réserves sur la traduction des passages des chansons. Il fait des traductions un peu approximatives de certaines paroles, mais ça se laisse lire. Ça fait 400 pages et voilà.
Très bien. Patrick
Moi, je suis allé voir cette semaine Get Out au cinéma. Joël, je crois que tu n'avais pas... T'avais quelqu'un. Moi, j'ai plutôt bien aimé.
Je trouve
moi.
Que ce n'était pas à la hauteur de...
Parce que c'était un gros buzz aux États-Unis, un gros carton. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Ce n'est pas un film très, qui n'a pas une ambition folle. Bah, je trouve que c'est un film resserré. Mais j'aime bien en fait, ce genre de film qui est plutôt humble dans sa façon de d'écrire une histoire, qui est plutôt resserrée, plutôt court, qui me fait là aussi un peu comme Life. Moi, je rapproche un peu de Life, qui n'inventait pas grand-chose, mais qui le faisait bien et qui se focalisait sur une petite histoire bien ficelée. Là, je trouve que c'est un peu le même système. Ça pourrait aussi être une histoire de quatrième dimension. Ça pourrait être une petite histoire comme ça ramassée. Et je trouvais ça...
C'est un long métrage.
J'ai trouvé que c'était plutôt bien foutu. Et on a pas mal parlé du mélange comédie et horreur. Moi, je trouvais que ça marchait plutôt bien, que la comédie était quand même bien en retrait par rapport à l'horreur de ce qui se passe à l'écran. Moi, j'ai trouvé ça intéressant. Ça m'a fait un peu penser à The Visit, un des derniers grands Shyamalan, parce que le tout dernier, j'ai pas du tout aimé. Mais The Visit, je recommande encore, qui était petit film horrifique, pareil, petit budget, mais grosse ambiance. Je recommande aussi The Visit, si vous l'avez pas vu. Il a pas fait beaucoup de bruit à l'époque, mais très réussi. Voilà.
Voilà, moi j'ai lu une BD de vulgarisation super intéressante, enfin qui s'appelle Internet. C'est alors malheureusement j'ai plus l'éditeur, c'est scénarisé par Jean-Noël Lafargue et j'ai plus le nom du dessinateur, je suis désolé. Et en fait c'est un petit bouquin sur l'histoire d'Internet, comment ça marche vraiment, enfin voilà, c'est quoi ces câbles, d'où ça vient, tous ces ordinateurs connectés. C'est la même collection où Jean-Noël Lafargue avait écrit avec Marion Montaigne, donc il fait tu rat moins bête, le blog, il avait fait un numéro sur toute une BD sur l'intelligence artificielle. Voilà, c'est des choses, c'est des petites bandes dessinées qui expliquent de manière assez simple des concepts quand même compliqués, mais qui nous concernent tous les jours. Et donc, c'est toujours intéressant d'avoir des rappels comme ça. Qu'est-ce que c'est l'adresse IP, les DNS. Non, mais
C'est vraiment.
Mais c'est intéressant de voir comment est-ce qu'on peut vulgariser
des concepts.
Et puis oui, si je dis que j'ai pas appris des choses, mais il y a des souvenirs sur l'historique, ne serait-ce que sur l'historique de qu'est-ce qui s'est passé dans les années 60, voire même avant, pour aboutir à un réseau connecté.
Téléphone qui était avec le sifflet, c'est pas
oui.
ça
Ça, c'était plutôt années 90, même 80, il y avait encore ça.
Ah non, c'était plutôt, années...
Non, ça, c'est les modems.
80.
Mais voilà, ça rappelle quand même des choses, des concepts, et c'est super intéressant. Voilà. Et sous forme de bande dessinée, c'est très bien dessiné, c'est drôle, et donc voilà.
Oui, ce qui est forcément évident.
Ça s'appelle Internet, et je ne sais pas chez quel éditeur, vous trouverez vous-même.
Sur Internet. Voilà.
Sur Internet, par exemple. Merci à tous pour cette émission. Merci. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine sur No Life, sur Libération et sur les internets.